La parole des contes avec Anne Wang.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Dernièrement, nous avions étudié le conte type 451, La petite fille à la recherche de ses frères. Ils sont souvent sept. Et souvent, ils sont transformés en animal. Une fois en corbeau, à cause de la malédiction du père, ou en cygne, et aussi en mouton, comme dans cette version-là. Nous avions croisé deux versions, l'une nivernaise et une autre du pays de Bigorre. Et maintenant, entrons en Vendée avec Bernadette Bidaude qui en a fait un joli bijou. À force de le polir, le sucer comme les frères sucent leurs doigts ou leurs mains trempées dans la soupe, ou encore comme le loup suppe le petit doigt de la petite sœur. À force de supper son compte, elle en a fait ce joli bijou que je vais me faire un plaisir de partager avec vous. Vous pourrez trouver ce conte dans les plus beaux contes de conteurs chez Cyros, à la page 339, Les Sept Frères. Et maintenant, place à la musique folklorique de Vendée! C'est une famille où il y a sept frères. Et la mère est encore en chemin de famille, en espoir d'un enfant, quoi. Alors la voisine, vous savez, celle qui connaît toujours tout, elle appelle les gars et elle leur dit « Je vous préviens, si cette fois c'est une fille, il ne sera plus question de vous, les gars, parce que les filles, c'est beaucoup mieux que les gars. » Oh, il n'avait jamais pensé à une affaire pareille. Mais d'abord, il fallait savoir si c'était un gars ou une fille. Et pour savoir ça, chers auditeurs et chères auditrices, vous savez ce qu'il faut faire, vous? Eh bien, la voisine, vous savez, celle qui connaît toujours tout, elle leur a dit. Sur le toit de votre maison, vous allez mettre un marteau d'un côté et un ciseau de l'autre. Tous les matins, vous regarderez. Si le marteau tape, c'est un gars. Et si le ciseau coupe, c'est une fille. Oh, les gars s'empressent de poser le marteau et le ciseau, et tous les matins, ils lèvent la tête. Les jours, les semaines, les mois passent et rien ne bouge. Jusqu'au jour où le plus jeune d'entre eux remarque que le ciseau coupe. Oh, c'est sûr, ça sera une fille. Aussitôt, les gars font leur baluchon et partent vivre dans la forêt. Jeannette est venue au monde, elle a grandi, et l'année de ses 12 ans, le père et la mère sont morts. Au bout de 3 jours qu'elle pleurait, la voisine, vous savez, celle qui connaît toujours tout, elle lui a expliqué qu'elle n'était pas seule au monde et qu'elle avait 7 frères. 7 ? 7 ! Elle décide aussitôt de partir à leur recherche, fait son paquet et prend la route. Marche aujourd'hui, marche demain, à force de marcher, on fait du chemin. Marche aujourd'hui, marche demain, à force de marcher, elle fait du chemin. Et un soir où la fatigue la prend, elle s'assoit au pied d'un chêne. Le dormi ne l'a pas encore empoigné, mais presque. Et c'est à ce moment-là qu'elle voit une dame blanche qui lui demande son histoire. Et puis elle lui donne 3 pommes en lui disant « Tu les prendras une par une, tu les jetteras une par une à terre devant toi et tu leur diras... »
Roule, roule, roule.
Roule, roule, ma petite pomme, jusqu'à la maison de mes 7 frères. Jeannette n'a rien à perdre. Elle prend la première pomme et la jette.
Roule, roule, roule.
Ma petite pomme, jusqu'à la maison de mes 7 frères. Et la petite pomme roule toute la matinée. Et arrivée à un carrefour, elle tourne, 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 tourne sur elle-même, sans avancer, comme une pomme, quoi. Oh, Jeannette saisit la deuxième pomme, la garoche, la jette.
Roule, roule, roule.
Ma petite pomme, jusqu'à la maison de mes 7 frères. Celle-ci roule drôlement plus vite. Et une heure plus tard, un cochon sauvage la mange. Oh, alors Jeannette attrape la dernière pomme.
Roule, roule, roule.
Ma petite pomme jusqu'à la maison de mes 7 frères. Celle-là, elle roule tranquillement toute la soirée et elle vient se toquer contre une petite porte. Jeannette la pousse. Chers auditeurs, avez-vous une idée de ce qu'elle voit la porte poussée? Eh bien, elle voit 7 lits, 7 chaises, 7 couverts. Eh, c'est sûrement la maison des 7 frères. Waouh, la Jeannette, elle est tellement contente qu'elle se met à faire une chaudronnée de soupe haute comme toi. Puis sort et va se cacher. Au soir, 7 gars rentrent de l'ouvrage, la hache sur l'épaule. Et Berdy Berdoc, on a fait du chemin. Et Berdy Berdoc, on a fait du chemin. Les pieds sur le seuil de la porte, que voit-il? La chaudronnée de soupe. Ils en font 7 fois le tour. Le plus vieux met son nez par-dessus et relume bien comme il faut. Ça sent bon, oui, oui, oui. Ah, mais moi je ne goûte pas les affaires que je connais pas. Le deuxième prend son petit doigt, le trempe dans la soupe et le suppe. Oh, elle est bonne cette soupe. Le troisième trempe sa main et la suce. Elle est bonne, bonne, bonne cette soupe. Le quatrième met ses deux mains. Mais cette soupe, elle est extra! Le cinquième finit la chaudronnée et le sixième lèche le plat, lèche le plat, lèche le plat, même que le septième, il n'a rien du tout. C'est vous dire qu'elle était bonne, le reste soupe. Mais elle est bonne, mais faudrait savoir qui c'est qui l'a cuisinée. Le lendemain, mine de rien, les gars partent au boulot, la hache sur l'épaule. Et Berdy Berdoc, on a fait du chemin, on a du chemin à faire. Et Berdy Berdoc, on a du chemin à faire. Et sitôt le coin de la maison passé, les gars se cachent, attendent. Jeannette pénètre dans la maison et à peine a-t-elle recommencé sa chaudronnée que les 7 frères rentrent à leur tour, voient la fille. En font 7 fois le tour. Mais qui t'es, toi?
Ben moi, je suis votre petite sœur. Les parents sont morts. Je suis venue vivre avec vous, enfin, si c'est possible.
Après de longs débats, ils ont accepté, rapport que quand même la soupe a été bonne.
Il y aura une condition, dit le plus vieux. Tous les matins, la première chose que tu feras sera de donner une tartine de crème à la chatte. Si tu oublies, la chatte ira pisser sur ton feu, t'auras plus de feu et tu seras obligé d'aller chercher le feu chez le grand loup, vu que c'est lui seul qui détient le feu de tout le pays.
Oh bah sûr que je vais y penser.
Elle a donné la tartine de crème à la chatte tous les matins pendant des années, jusqu'à ses 17 ans. Un matin, elle oublie. La chatte pisse sur le feu et la Jeannette n'a plus de feu. Jeannette part chez le grand loup, elle est pas fière. Elle arrive tremblante et murmure.
Bonjour grand loup, il me faudrait du feu.
D'accord, mais à une condition. Je viendrai chez toi tous les matins et tu me donneras ton petit doigt sucé par le creux de la serrure. »
La petite sœur prend le feu dans ses bras et s'en retourne vite sans regarder derrière elle avec un grand loup. On sait jamais.
Oh, elle dit rien à ses frères.
Le lendemain, le grand loup est derrière la porte et il luche.
Ton petit doigt sucé, Jeannette. Ton petit doigt sucé.
Jeannette, toute tremblante, glisse son petit doigt et le grand loup le sup. Tous les matins, c'est le même cinéma et au bout d'une semaine, la petite sœur est devenue blanche, 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 si blanche. Au bout de 15 jours, elle est devenue maigre, 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 maigre. Si maigre. Même qu'au bout de 3 semaines, elle virait vraie malade. Tellement que ses frères la questionnent. Alors elle finit par avouer son oubli de la tartine de crème à la chatte. Elle donne des expliques. Ses frères lui disent « C'est pas difficile. Écoute, demain, tu lui diras que t'es trop malade, que tu peux pas te lever. Tu lui demanderas de passer sa tête par la chatonnière pour sucer ton petit doigt. » Et c'est ce qui se passe. Et là, les choses ne traînent pas. Deux des gars prennent deux grosses haches et tchac ! Le grand loup est mort. La tête d'un côté, le corps de l'autre, et une grande mare de sang entre les deux, avec tout plein de mouches dessus. Ah, berk! Mais il faut pas garder un loup chez soi. Il se passe de drôles de choses, sinon. Les frères le savaient. Ils ont creusé un trou, un grand trou, dans le fond du jardin. Ils ont enterré le loup et, pour qu'on n'y voie rien, ils ont planté des choux par-dessus. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien dit. L'histoire aurait pu finir là, si l'hiver qu'a suivi n'avait pas été si terrible. 2 mètres de neige pendant 6 mois. Plus de jardin, plus de chemin, et bientôt, plus grand-chose à manger chez les 7 frères, comme chez les autres d'ailleurs. La petite sœur ne voyait plus qu'une chose, la tête des choux qui dépassait de la neige. Quand t'as rien à manger, tu ferais bien n'importe quoi. Un matin, elle a craqué. Elle s'est glissée sur la neige, un couteau à la main, et elle a coupé la tête des choux, tous sans en oublier un. Elle en a fait une soupe qui sentait tellement bon que les frères se sont jetés dessus, même qu'elle n'a pas eu le temps d'en manger. Et heureusement, car au bout de 7 heures, les 7 frères se sont transformés en 7 moutons. Que voulez-vous qu'elle fasse ? Elle a attendu le beau temps pour emmener pète ses frères moutons dans les prés. Le printemps revient toujours après l'hiver. En les gardant, elle chantait, bricolait, racontait. Un jour, elle a une grande soif, pour avoir trop chanté. Elle se penche sur la fontaine pour boire. Et là, est-ce le soleil qui lui tape sur la tête ou les gens de l'autre bord qui l'appellent ? Toujours est-il qu'elle tombe dans la fontaine. Depuis, les moutons tournent autour de la fontaine, nuit et jour, jour et nuit, en chantant. En moins d'une semaine, la nouvelle passe par toutes les goules du pays et arrive jusqu'aux oreilles du roi, qui est un homme qui a vu bien des choses dans sa vie. Mais ça, alors ça, jamais. Aussi le voilà qui enfourche son cheval et qui arrive près des moutons qui tournent toujours en chantant « Sœur Sœurette, le roi veut nous tuer, Sœur Sœurette, le roi veut nous tuer !» Et une autre petite voix qui remonte du fin fond du haut de la fontaine et qui répond « Eh, que voulez-vous que j'y fasse? Que voulez-vous que j'y fasse? Comment je pourrais l'empêcher? Je pourrais pas l'empêcher. Que voulez-vous que j'y fasse? Comment je pourrais l'empêcher ?» Le roi se penche et aperçoit la fille tout au fond dans la fontaine. Il tend une corde, elle la sort de l'eau.
Ils se sont vus, ils se sont plus, ils se sont émus.
Bref, ils sont tombés raides amoureux, tellement que le roi propose à Jeannette de rentrer avec lui.
« Oh ben d'accord, d'accord, dit-elle, mais bon, c'est pas sans les moutons, avec les moutons ?»
Le roi est tellement en amour qu'il accepte. Vous auriez vu ce retour au château, le roi, la fille à son bras et les 7 moutons derrière. Ah, ce fut une entrée très, très remarquée. Le lendemain, un banquet fut organisé et savez-vous ce qu'on y a mangé ? De la soupe aux choux ! Les moutons avaient à peine avalé la première cuillerée qu'ils se sont retournés en 7 gants. Ah, si la sœur l'avait su, elle en aurait fait des marmites de soupe aux choux. Et tiens, en voilà une de soupe aux choux. Quittons la Vendée et Bernadette Bidaude, une super bonne femme avec laquelle j'ai suivi une formation pendant une semaine à Clans dans les Alpes-Maritimes, organisée par le Haricot Magique dont Ludmila Giovanetti est la présidente. Et allons dans notre belle région de Languedoc-Roussillon avec une histoire qui s'est passée à Gruissant. Jordi, un pêcheur de Gruissant, était fort mécontent de découvrir chaque matin son bateau mouillé d'eau de mer. Vraisemblablement, quelqu'un s'en servait durant la nuit. Il trouvait le fait très troublant. Un soir, il voulut en avoir le cœur net. Il se mucha donc discrètement derrière une dune proche. Il attendit. Aux 12 coups de minuit, il entendit un petit groupe approcher. Dans l'obscurité, il distingua 7 femmes drapées dans de longues capes. Elles avançaient à la queue leu-leu et la première brandissait une lanterne pour éclairer le chemin et les autres portaient au creux de leurs mains un simple lumignon. Elles se dirigeaient directement vers la barque, la poussèrent vers le large avant de grimper à bord. L'une d'entre elles énonça des mots bizarres, incompréhensibles, inquiétants, et le barco bientôt brisa la brume d'une brèche brune. Jordi regagna son foyer encore plus intrigué que la veille. Le lendemain, il retrouva son embarcation trempée d'aigues salées. Cette fois, notre piscofi décida d'échafauder un plan infaillible afin d'en apprendre davantage sur la mystérieuse destination empruntée par ces drôles de navigatrices. Une vesprée, il alla se dissimuler au fond de l'embarcation et attendit. À minuit pile, les 7 femmes arrivèrent. L'une d'elles, sur un ton incantatoire, déclara « Part pour une, part pour deux, pour trois !» Elle compta comme ça jusqu'à 7.
et le bateau resta immobile. Alors une des visiteuses éclata de rire, révélant qu'il fallait dorénavant psalmodier jusqu'à 8, car elle était enceinte. Part pour 8 ! Et le canot quitta aussitôt le port avec un passager clandestin blotti sous les planches de la bancasse. Le canot fina tel une fusée sur les flots, comme poussé par un vent violent. Très vite, il aborda un rivage étranger. La crique était cernée d'une couronne de cocotiers de palmiers géants. Les passagères semblèrent accoster une terre familière. Elles empruntèrent en silence un sentier sinueux, serpentant jusqu'à un quartier particulièrement animé. Jordi, ébahi, les suivit en catimini. Elles pénétrèrent dans une magnifique demeure entièrement illuminée. On aurait cru un palais tant elle débordait de tours, de cours, d'atours, des plus merveilleux, le palais des mille et une nuits, où se déroulait une fête immense, des croisées ouvertes sur les profondeurs, de la soirée s'échappaient les notes mélancoliques des mélopées. À vous couper le souffle, des rires aigus, des cris stridents, et aussi des jurons vulgaires. Ils s'en dégageaient d'alléchantes senteurs de mets, de fruits, de fleurs, de parfums. La foule des noctambules battait le pavé de ces allées. Ils parlaient entre eux une langue inconnue de Jordi. Dans quelle contrée des confins de la Méditerranée se trouvait-il ? Il l'ignorait totalement. Pourtant, après quelques instants passés à écouter attentivement les sonorités particulières à cet idiome, il supposa que l'on parlait arabe et en déduisit qu'il se trouvait peut-être en Égypte. Avant de courir se cacher à la clarté des étoiles sous la toile d'une voile, le pêcheur préleva une petite palme qu'il emporta avec lui en guise de souvenir et pour pouvoir, le cas échéant, attester de son aventure. Les sept femmes revinrent sur la plage avant l'aube. Elles embarquèrent toutes précipitamment et celle qui faisait officiellement office de capitaine compta part pour une, part pour deux, part pour trois, part pour huit. Et le bateau fougueux s'élança sur les vagues. En un clin d'œil, il atteignit le port de Gruissant. Du canot, sitôt sorti, les sept femmes s'égayèrent promptement parmi les ruelles du village. Lorsque Jordi fit à ses amis le récit de son escapade, leur relatant qu'en une nuit, une seule, il avait traversé la Mar Nostrum, la mer Méditerranée, et s'était rendu au pays des pharaons, on se demanda s'il n'avait pas abusé de la bouteille. Pourtant, on ne lui connaissait pas ce penchant. Et quand il montra une branche d'arbre exotique, on soupçonna derrière ces événements étranges dont il avait fait la narration quelques sorcelleries. Il s'était sans doute fait emmasquer. Jordi en était également convaincu et errait dans les rues totalement désemparé. Le dimanche, au cours de la messe, le curé à qui il s'était confié et qu'il avait pris en pitié déplora la présence de personnes rebelles, retorses, renégates parmi ses ouailles. À la fin de la célébration, Jordi se porta en secret à la rencontre de ce curé dans la sacristie et lui suggéra de saupoudrer de sel le seuil du sanctuaire. En ce temps-là, on semait du sel sur le parvis des édifices sacrés pour en chasser Satan et sa suite de sorciers. Le dimanche suivant, l'homme de Dieu accueillait ses fidèles, les mains tranquillement posées sur la ceinture de sa soutane. Les cloches à la volée appelaient les paroissiens à la prière. les sept aventurières ne tardèrent pas à s'approcher. Pourtant, malgré leurs efforts, passer le porche, elles ne purent pas pénétrer dans l'église. Une force invisible s'opposait à leur passage. Elles s'embronchèrent sur leur parvis, poussèrent une exclamation de surprise et d'effroi et s'enfuirent à toutes jambes. C'est ainsi que, grâce à une poignée de cristaux de sel, l'on démasqua les sept sorcières de Gruissant. Et vous, chers auditeurs, chères auditrices, là où vous êtes, avez-vous découvert des personnes étranges? N'oubliez pas de vous munir de cristaux de sel dans les poches, on ne sait jamais. Chers auditeurs, chères auditrices, merci pour votre écoute attentive et je vous dis à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.